Bâtiment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Bâti Radio. Donc, je suis ravie que vous veniez passer un nouveau Bâtiment avec nous. Nous allons parler, comme d'habitude, de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de la construction, de l'aménagement du territoire. Beaucoup de questions de rénovation aujourd'hui. Et puis toujours de développement durable et de protection de l'environnement. Parce que, vous le savez, cette émission, c'est vraiment celle qui pense que c'est vos filières qui pouvaient changer quelque chose au réchauffement climatique. Sans transition, j'accueille mon invité du jour, Thierry Riezer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur de l'École centrale de Paris. Après un an dans les énergies renouvelables, éolien puis biogaz, vous travaillez depuis 2006 dans le bâtiment et rejoignez en 2008 Enertech, bureau d'études spécialisé dans la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, dont vous êtes le gérant depuis 2015. Vous êtes un membre actif de l'association Négawatt et c'est à ce titre que l'on vous reçoit aujourd'hui.
Tout à fait, merci.
Alors, avant de démarrer, expliquez-moi, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce secteur d'activité? Qu'est-ce qui vous y a accroché? Comment vous êtes tombé dans la marmite, comme dirait Obélix?
Tout à fait. Oui, bah, je suis tombé dans la marmite assez tôt, puisque mon engagement écologique, ça date du collège. Je savais que je voulais travailler dans l'environnement, dans l'écologie. Et puis donc, un petit détour par les énergies renouvelables, un petit détour en Irlande. Et puis, en revenant en France, je me suis aperçu que dans le bâtiment, il y avait beaucoup de choses à faire, des gros chantiers devant nous, et aussi des chantiers sur lesquels on peut déjà agir aujourd'hui. On a déjà tout ce qu'il faut dans la boîte à outils pour faire de la performance énergétique. Il n'y a pas besoin d'attendre une innovation miracle qui va tous nous sauver. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est prêt pour agir, on peut y aller. Voilà, donc ça, c'était assez engageant. Et puis, pour donner un accent plus personnel aussi, le bâtiment, c'est dans la vie de tous les jours. Et voilà, depuis quelques années, j'ai la chance aussi d'avoir pu rénover ma maison et de pratiquer la rénovation BBC au quotidien chez nous. Et on est extrêmement contents du confort et de la performance.
Les travaux théoriques à la pratique,
exactement.
Ça permet des fois de changer d'angle quand
absolument.
On passe par cet angle-là. Donc en gros, concrètement, pour vous, secteur bâtiment, c'est beaucoup des questions d'énergie quand même.
Oui, alors effectivement, côté Enertech, donc on a été fondé par Olivier Sidler et clairement, on a un angle énergie dans le bâtiment depuis le début, même ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser à l'écologie, à l'environnement du bâtiment plus largement et à tout ce qui est qualité environnementale du bâti, santé, qualité et également tout ce qui est précarité énergétique, qui sont évidemment des enjeux extrêmement liés.
Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que le secteur des bâtiments en France, c'est à peu près 50% de l'énergie finale consommée. Et c'est également un quart des gaz à effet de serre. C'est pour ça que les questions énergétiques pèsent quand même lourdement sur nos sujets.
Absolument.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter Négawatt ? Tout le monde connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment ?
Oui, en fait, l'association Négawatt, donc ça existe depuis 2001. Et puis, c'est une association, on ne le sait pas forcément bien, mais ça regroupe des spécialistes de la transition écologique dans un peu tous les domaines, que ce soit le bâtiment, l'agriculture, les énergies renouvelables, les transports, aussi les matériaux. En fait, la compagnie des Négawatt, l'association, regroupe des praticiens de terrain. Ce qui base nos travaux, au final, c'est à la fois une compétence technique, mais aussi une pratique. On n'est pas hors sol, entre guillemets, quand on fait un scénario énergétique. Voilà. Et effectivement, les travaux de l'association, c'est essentiellement des travaux de prospective, donc avec les scénarios Négawatt. Depuis 2003, on a commencé à publier des scénarios un peu tous les 4 ans, au moment des campagnes présidentielles. Et on réalise également des actions de plaidoyer pour essayer un peu de porter nos propositions politiques. Plus concrètement, l'approche Négawatt, elle est connue par le triptyque, le fameux triptyque Négawatt de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable. Moi, j'aime bien le présenter sous forme d'une petite parabole. Enfin, c'est du bon sens, finalement, quand on y réfléchit. Si j'ai une baignoire qui fuit, je ne vais pas commencer à me précipiter à acheter un deuxième chauffe-eau pour avoir assez d'eau chaude. Je vais commencer par la sobriété, me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de me baigner tous les jours ou est-ce que je peux pas alterner avec de la douche, etc. Je vais commencer par faire de l'efficacité, je vais soigner l'étanchéité de ma baignoire, je vais soigner les calorifuges de mes tuyaux, etc. Voilà, une douchette performante, etc. Ça, c'est de l'efficacité. Et une fois que j'aurai fait tout ça, un petit ballon solaire, ce sera parfait pour assurer ce qui reste de production d'eau chaude. Voilà, c'est une démarche dans le bon sens et pas se précipiter sur les solutions techniques avant d'avoir réfléchi aux besoins.
Alors, si j'étais taquine, je dirais alors voilà, ça y est, ils veulent me priver de mon bain. Donc, c'est la preuve que l'association Négawatt, c'est vraiment l'association de la décroissance qui veut nous faire vivre comme à l'âge de pierre.
Aïe. Non, effectivement, je vous rassure, bien sûr. Moi, j'habite dans une grotte, qui est une grotte à énergie positive, avec un poêle à bois, avec une chienne adorable,
Très concrètement, c'est d'accompagner la performance économique des différents secteurs, tout en ayant effectivement une suppression des usages inutiles, qui sont de l'ordre du gaspillage et pas celui de la décroissance de confort.
Non, effectivement.
Je pense qu'il faut le redire. Je crois qu'il y a parfois une vision des fois de l'extérieur de Négawatt qui est un petit peu déformée.
C'est toujours difficile. La meilleure façon de définir la sobriété, c'est par son contraire. Le contraire de la sobriété, c'est l'ébriété. C'est quand on réfléchit pas aux usages, quand on abuse un petit peu de tout, et des fois y compris à pas dans son propre intérêt, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, etc. Donc voilà, c'est avant tout une démarche de se reposer un petit peu des questions avant de sauter aux conclusions et notamment aux solutions techniques qui peuvent être un petit peu des solutions de facilité des fois.
Très intéressant. Et alors, du coup, Négawatt, vous l'avez dit, c'est des prospectives à travers des scénarios. Et l'un de ces scénarios est paru récemment. Est-ce que vous pourriez revenir, du coup, sur les principales conclusions de ce scénario lié à la rénovation énergétique ?
Oui, absolument. Donc, effectivement, le scénario Négawatt 2022, on l'a publié en octobre dernier. Effectivement, par rapport au secteur du bâtiment, donc nous, on vise l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et pour le secteur du bâtiment, on sait qu'il a un rôle majeur à jouer dans cette transition. Pour préciser, il y a le neuf, il y a la rénovation. On sait que le parc bâti à horizon 2050, c'est essentiellement des bâtiments qui existent déjà aujourd'hui. En effet, le rythme de démolition, de reconstruction est relativement lent. Il va sans doute même plutôt se ralentir un petit peu au niveau de la construction.
Sous l'effet de zéro artificialisation nette, notamment.
D'une part, et puis des effets tout simples de la démographie. En fait, quand on regarde les projections de l'INSEE, on voit que l'accroissement démographique se ralentit. Donc, on aura tout simplement moins besoin de bâtiments neufs dans le futur, dans une certaine mesure.
Est-ce que c'est vraiment vrai ? Typiquement, on voit ça pour partie, mais en partie, on voit aussi la décohabitation, c'est-à-dire les séparations de ménages. Là où il y avait une maison pour la famille, maintenant, il en faut deux. Et comme il faut pouvoir accueillir les enfants, là où on avait une maison, il en faut deux maintenant.
Tout à fait. Alors, on a des hypothèses de stabilisation de la décohabitation dans Négawatt, mais c'est pas en interdisant quoi que ce soit, on va pas interdire les divorces, soyons clairs.
Non, ce serait compliqué pour les voisins, ça.
Ce serait très compliqué, voilà. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que ces phénomènes-là se produisent, qu'on le veuille ou non, mais que par ailleurs, il y a d'autres solutions aussi de recohabitation, notamment intergénérationnelle. On a aussi des solutions
Qu'il y a un autre phénomène en parallèle celui-là aussi.
Voilà, on a aussi tout ce qui est télétravail et le Covid nous a bien montré qu'il y avait des possibilités dans ce sens-là qui étaient importantes, qui permettent aussi de réduire les surfaces dont on a besoin dans le tertiaire, par exemple. Il y a des notions de mutualisation et on peut aussi imaginer de fluidifier un peu les parcours résidentiels, comme ça se fait ailleurs, notamment dans des petits collectifs où on peut imaginer que je suis avec mes enfants, je vais dans un logement adapté avec mes enfants. Quand les enfants grandissent et s'en vont, je vais pouvoir déménager dans la même résidence sur un appartement un peu plus petit, etc. Donc on a des possibilités qui sont plus exploitées dans d'autres pays qu'en France. On peut imaginer d'adopter un certain nombre de ces bonnes pratiques.
On a un attachement quand même très important au lieu où on habite, bien sûr. Se disant que c'est le cocon de notre famille. Et même quand les enfants sont partis, on a envie de garder cet endroit qui garde tous les souvenirs qu'on a vécus. C'est pas facile d'imaginer quitter un logement quand on arrive, même si au bout d'un moment, on peut râler sur le nombre de pièces à nettoyer en se disant que c'est peut-être pas utile qu'on les garde seulement pour les quelques fois où les enfants viennent
pour
Noël.
Pourquoi pas accueillir un étudiant pour rentabiliser la chambre d'amis qui sert plus.
Faut penser à l'optimisation aussi de l'occupation des surfaces actuelles.
Absolument. Mais effectivement, là où je voulais en venir par rapport au neuf, donc effectivement, il y a des choses qui se font et dans le neuf, on pourrait parler de l'Aéro 2020, mais pour moi, c'est pas le sujet si on peut prioriser aujourd'hui. Vraiment, le gros du sujet, c'est la rénovation. rénovation, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'ensemble du parc qui est, encore une fois, du parc qui existe déjà aujourd'hui et qui, à horizon 2050, il faudra réaliser, l'ordre de grandeur, c'est un facteur 4 sur les consommations énergétiques pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone globalement sur l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a d'autres secteurs où on aura beaucoup moins de marge de manœuvre que dans le bâtiment, donc il faut absolument mettre le paquet là-dessus. Donc ce qui veut dire quoi ? C'est que on va devoir faire des rénovations au niveau du bâtiment qui vont être un niveau de profondeur très important, qui va être l'ordre de grandeur, c'est la rénovation de type BBC ou équivalent, un bâtiment basse consommation, et un rythme très important. Aujourd'hui, on est à un rythme environ, de, si on se concentre sur le résidentiel, de 30 000 rénovations par an. On s'aperçoit que dans le scénario négawatt, on va monter très rapidement avant 2030 à un rythme de 800 000 rénos par an. Et selon les scénarios, on est à peu, tous les scénarios de prospective sont à peu près d'accord là-dessus. Et les chiffres, c'est entre 700 000 et 1 million de logements par an à rénover. Ces ordres de grandeur-là, on les retrouve tous. C'est une simple division arithmétique du parc à rénover d'ici à 2050.
D'ailleurs, ces chiffres-là, ils sont inscrits dans des documents très officiels qui sont la stratégie nationale bas carbone, absolument, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc les feuilles de route de l'État. Aujourd'hui, elles disent 500 000 rénovations BBC par an. Comme vous l'avez dit, on n'en fait en réalité que 30 000, 40 000 par an de ces rénovations BBC, donc on est encore loin du compte. Et effectivement, ça, c'est à mesurer au fait que aujourd'hui, les 500 000 qui sont inscrites dans la SNBC précédente, on a déjà pris du retard, vu qu'on n'y est pas du tout et qu'on n'a pas du tout fait ces 500 000 rénovations. Bah, de fait, il va falloir réactualiser ces chiffres-là et atteindre des 800 000, 1 million de rénovations BBC par an. C'est, comme vous l'avez dit, un rétro-planning simple. Il nous reste, on a quoi, 32 millions de logements en France. Il nous reste à peu près 30 ans pour les traiter. On a à peu près 6% des logements qui sont déjà au niveau BBC qu'on vise pour 2050. Ben, ça veut dire que tout le reste, c'est une simple division, quelque chose comme 30 millions de logements sur 30 ans. Eh ben, vous faites le calcul comme moi, c'est 1 million. Mais si on ne fait rien cette année, l'année prochaine, ce sera plus. Et l'année d'après, ce sera encore plus, etc., etc., etc. Je crois que ce calcul-là, de pouvoir bien le dire de cette façon-là, ça permet quand même de se rendre compte que, indépendamment des chiffres qu'on fixe, qui nous semblent réalistes sur les papiers, on a besoin d'avoir cette trajectoire de vision. On sait que demain, on ne passera pas de 40 000 à 800 000 du jour au lendemain sans une transformation. Et c'est ça l'enjeu dans lequel doivent s'engager les professionnels qui nous écoutent.
Tout à fait, absolument. Nous, on arrive à un chiffre un tout petit peu inférieur dans le scénario négawatt parce qu'on prend aussi en compte une part du parc qui va avoir une certaine valeur patrimoniale ou qui va avoir des difficultés à être rénovée totalement au niveau BBC, sur lesquelles on va peut-être viser un niveau un petit peu moins élevé, notamment pour la protection du patrimoine. Donc on a aussi cette prudence-là sur une petite partie du parc. Il ne s'agit pas de considérer comme patrimonial tout et n'importe quoi. Évidemment, il faut traiter tout le bâti avec le respect qui lui est dû. Mais on peut faire des choses, y compris dans le patrimonial. On peut faire du BBC dans le patrimonial. Mais voilà, on a aussi pris une hypothèse prudente pour ne pas se mettre le couteau sur la gorge non plus et garder les bâtiments qu'ils méritent.
Ça marche. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on mette en place ? C'est quoi les politiques, les mesures qui doivent nous permettre d'atteindre ces objectifs-là ?
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez souligné, il y a urgence à agir vite. Ça va se jouer dans les 5 ans qui viennent. On ne peut plus se permettre de prendre beaucoup de retard.
Pourquoi
sinon,
les 5
chiffres
ans qui viennent ? On a jusqu'à 2050.
Mais justement, vous l'avez souligné, en fait, les chiffres sont déjà impressionnants. Un million de logements par an, entre 800 000 et 1 million de logements par an à rénover. Si on prend 5 ans de plus de retard, ce sera 1,2 million, ce sera... Et à un moment donné, ça posera des questions en termes de ressources, de main-d'œuvre, tout simplement, pour réaliser...
Ça en pose déjà, d'ailleurs.
Ça en pose déjà, ça, on va pouvoir peut-être en parler après. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de décoller le plus vite possible. Alors, dans le scénario négawatt, on a fait une rampe de progression qui nous semble réaliste, mais extrêmement ambitieuse, mais faisable, on va dire, à condition de démarrer vraiment maintenant. Et notamment, ce qui nous semble le premier levier à déclencher, c'est de transformer les actions de rénovation qui sont aujourd'hui essentiellement des rénovations par geste. Je vais intervenir sur des fenêtres, sur une chaudière, sur une isolation de toiture, par exemple, mais sur des maisons différentes à chaque fois. Aujourd'hui, on fait des gestes majoritairement unitaires ou deux gestes au mieux, dans la majorité des cas. Le geste en lui-même est bon. Aujourd'hui, la pratique, c'est quand on pose une chaudière, ça va être une chaudière performante, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ça ne suffit pas pour une efficacité globale, puisque l'efficacité au niveau facteur 4, au niveau BBC ou équivalent, ça se joue aussi dans les interfaces entre les lots. Mmh. Il ne suffit pas de jeter de l'isolant sur un bâtiment pour qu'à la fin, ça fasse un bâtiment performant.
Donc,
il
si
va
je
falloir traiter
bien,
toutes les interfaces.
Si je traite de manière successive les 6 postes qu'on dit, les 6 postes de rénovation qu'il faut traiter pour atteindre une rénovation globale, il ne suffit pas que j'en fasse 6, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il faut que je réfléchisse le croisement de ces différents postes.
Exactement.
Sans ça, même les 6 postes traités, j'arrive pas à la rénovation globale.
Exactement. Et ça, on a pu l'établir assez clairement dans une étude qui a été réalisée pour l'ADEME par Doremi et Enertec, qui s'appelle la rénovation performante par étapes, qu'on retrouve sur le site de l'ADEME, et qui montre qu'en fait, au-delà de 2 ou 3 étapes de rénovation, même avec un bouquet de travaux très performant, en fait, on dégrade la performance assez vite. On est vite à moins 60%, enfin plus 60% de consommation plutôt, par rapport à un objectif BBC quand on monte à 6 étapes avec un bouquet de travaux performant. Et si on est sur un bouquet de travaux uniquement au ras des pâquerettes de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce que demandent les aides et qu'on imagine que les gens n'iront pas jusqu'au bout parce qu'au bout de la 5e étape de travaux, on peut s'imaginer que les gens en auront un peu ras-le-bol d'être dans la poussière et de vivre les désagréments des travaux. Donc si on suppose que les gens s'arrêtent à 5 étapes, c'est fois 2 et quelques par rapport à l'objectif BBC. Donc on n'y sera pas du tout et on n'aura pas le facteur 4 et tout ce qui s'ensuit au niveau climatique et au niveau globalement de dégradation de l'environnement. Donc il y a un vrai enjeu d'interface. Si je peux permettre un petit parallèle, c'est un peu comme quand on construit un barrage sur un ruisseau. En fait, si je pose une pierre, même si c'est une belle pierre bien posée, l'eau va commencer par faire le tour de la pierre, on aura assez peu d'efficacité. Quand je commence à mettre mes 6 pierres en travers du barrage, il se passe un peu quelque chose, mais il n'y a pas de jonction bien faite entre les pierres si je n'ai pas réfléchi, si je n'ai pas ajusté les pierres en les mettant les unes en même temps. Et ce n'est que si j'ai mis mes 6 pierres et des petits cailloux entre les pierres, donc j'ai traité les ponts thermiques, j'ai traité toutes les interfaces entre les lots, et que j'ai mis des petites feuilles mortes, quelque chose comme ça, sur le barrage, ça peut représenter l'étanchéité à l'air du bâtiment, par exemple, c'est là que le niveau de l'eau monte, donc ça c'est le confort qui augmente dans la maison, et que je maîtrise le débit, je maîtrise ma facture énergétique. Il y a un effet non linéaire, en fait, de la performance énergétique. Il y a un effet de verrouillage, une fois que la performance est globale, il y a un effet de verrouillage qui fait qu'on atteint vraiment la performance, alors qu'avant on est beaucoup moins efficace. C'est non linéaire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on entend des fois c'est le premier centimètre d'isolant qui est performant, etc., les suivants ils servent à rien, c'est vrai en partie, on oublie de dire que le premier centimètre d'isolant, c'est celui qui coûte le plus cher. C'est celui pour lequel il faut faire se déplacer un artisan, qu'il faut mettre un échafaudage, qu'il faut mettre un parement, un enduit, un placo, tout ce que vous voulez. C'est le premier centimètre qui coûte le plus cher. L'optimum économique, il est à un niveau qui permet d'atteindre des niveaux BBC, donc sur la 15aine de centimètres d'isolant en mur, sur la 30aine de centimètres en toiture, etc. C'est à ce niveau-là que l'optimum se situe d'un point de vue environnemental.
Typiquement, ça, vous faites référence, par exemple, à l'isolation des murs d'un immeuble. Quand on fait simplement un ravalement de façade et qu'on repasse une couche de peinture sans traiter l'isolation, ce qui a coûté le plus cher, c'est d'avoir mobilisé les équipes finalement sur un montage d'échafaudage sur une période particulière.
Absolument.
Et en fait, repartir à zéro pour refaire exactement la même chose une deuxième fois pour l'isolation, les gens le font déjà plus parce que maintenant c'est joli, donc en plus j'ai pas envie de retravailler le sujet. Et au final, j'ai toujours froid, quoi.
Et c'est typiquement une occasion manquée qu'il ne faudrait pas manquer. Donc effectivement, comme je le disais, il y a un enjeu à recentrer les politiques publiques sur la rénovation BBC et pas autre chose. Donc quand je dis BBC, c'est principalement BBC en une fois autant que possible, et puis peut-être en 2 ou 3 fois, par étape très encadrée techniquement pour éviter toutes les impasses, toutes les problématiques d'interface dont on a parlé. L'un ou l'autre. Mais en tout cas, vraiment rehausser le niveau d'exigence pour que les subventions de l'État aident à faire advenir venir ce qui est souhaitable dans les politiques. Vous avez parlé de la SNBC, c'est effectivement des rénovations BBC qui sont prévues et pas autre chose. Donc c'est vraiment ce que l'État souhaite aujourd'hui et donc c'est ce qu'il devrait financer. Donc ça, c'est la première mesure. Et comme vous le disiez, si je fais un ravalement de façade sans en profiter pour faire l'isolation thermique, c'est une occasion manquée. Il faudrait plus qu'on manque ces occasions-là. Et donc ça veut dire que...
Parce que là, c'est du temps de gagner, c'est de l'argent de gagner.
C'est de l'argent de gagner
et au final, ça coûte moins cher de le faire d'une seule fois.
Exactement. Donc c'est bénéfique à tout le monde. Et on sait aussi que l'incitation ne suffira pas à attendre 800 000 rénos par an. À un moment donné, il faudra se poser la question d'une forme de contrainte, d'une forme d'obligation, n'ayons pas peur des mots, dans la mesure où elle sera progressive et bénéfique à tout le monde. C'est-à-dire si, par ma rénovation énergétique et les conditions de financement qui vont autour, notamment les questions de prêts et de durée des prêts, si j'atteins l'équilibre en trésorerie à travers ma rénovation, c'est-à-dire que ce que je paye en remboursement après travaux, c'est équivalent à mon économie d'énergie en termes de facture, là, c'est gagnant. pour tout le monde, parce que j'ai gagné en valeur verte de mon bien et je ne paye pas plus au niveau de ma facture tous les mois. Donc c'est équilibré en trésorerie. Donc là, c'est gagnant pour tout le monde. Donc il n'y a aucune raison de ne pas rendre progressivement obligatoire et avec un encadrement sur la qualité, sur l'accompagnement, le financement, etc. Voilà, donc c'est ces deux mesures-là, vraiment recentrement des politiques et assez vite avoir une mise en place d'une forme d'obligation. Et puis, ce qui débouche de tout ça, c'est que la filière rénovation va être très largement créatrice d'emplois. On va créer de la valeur sur le secteur de la rénovation et on va avoir besoin de monde. Donc au début, ça va être les gens qui aujourd'hui font de la rénovation par geste, qui vont pouvoir se recentrer sur la rénovation BBC et gagner en panier moyen, peut-être en réduisant le nombre d'opérations, mais en gagnant en qualité. Et donc garder sur le même volume d'activité. Et puis, très rapidement, on aura besoin d'augmenter la main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment, ce qui veut dire penser dès aujourd'hui une politique de formation, de rendre la filière attrayante et de montrer que c'est une filière d'avenir sur laquelle on peut s'appuyer.
Alors, c'est intéressant parce que vous tombez en ce moment dans une actualité que vous avez envie de partager ce matin, dans un rapport Perfinmine qui est paru récemment. Est-ce que vous pourriez revenir sur les enjeux justement de la rénovation complète, performante ? C'est quoi Perfinmine ?
Oui, tout à fait. Donc Perfinmine, c'est une campagne de mesures qui a été réalisée avec le soutien de l'ADEME, par donc la Scope Enertech, avec Effinergie, avec Medieco et l'Institut Négawatt. Et donc cette étude porte sur 106 maisons un peu partout en France qui ont été rénovées à un niveau BBC ou équivalent. Et cette étude est très intéressante. Elle fait un peu le pendant à l'étude sur la rénovation par étapes, où on a vu qu'il y avait des difficultés sur la rénovation par étapes. Et là, ça montre, par des retours de terrain, un réel succès de la rénovation BBC ou équivalent.
La rénovation par étapes, c'était l'enquête Trémy de l'ADEME à l'époque ?
Non, c'est l'étude rénovation par étapes de l'ADEME, voilà, qui était faite par...
C'est qu'il y en a eu des études sur la
rénovation. Il y en a eu des étapes, il y en a eu des études, effectivement. Voilà. Non, je pensais à celle-là spécifiquement que j'évoquais un peu avant. Et donc voilà, donc, les promesses sont tenues, en fait, dans cette rénovation BBC ou équivalent en une fois. Donc, dans 90% des cas, on y est. Les ménages sont extrêmement satisfaits à la fois des travaux, de l'accompagnement et des factures après travaux. Le confort est bon, aussi bien en hiver qu'en été, ce qui est aussi un élément extrêmement important. La qualité d'air est bonne. On a pu le mesurer notamment avec le concours de Medieco, spécialiste de ce sujet-là. Tous les indicateurs sont au vert, en fait. Il y a bien sûr toujours des petits points à perfectionner. On pourrait aller chercher la petite bête sur l'accompagnement de la phase chantier, qui était peut-être un peu léger, ou la fin du chantier avec le réglage des systèmes, l'appropriation des systèmes par les ménages, etc. On peut toujours aller un petit peu plus loin, et ça peut alimenter notre réflexion sur la formation, d'ailleurs, des acteurs, et sur l'accompagnement, l'accompagnateur rénov, etc. Mais en tout cas, c'est un retour de terrain extrêmement positif et qui, à notre sens, devrait intéresser aussi bien les pouvoirs publics que les financeurs publics et privés de la rénovation pour dire oui, quand on fait de la rénovation performante, type BBC ou équivalent, eh bien, on a un réel gain énergétique, un réel temps de retour sur son investissement qui est fiable, en fait, sur lequel on peut s'appuyer et qui est sécurisé avec une marge de dispersion qui est relativement maîtrisée. Donc voilà, je vous invite à tous à consulter ce rapport qui est disponible sur le site d'Effinergie, effinergie.org, et puis il y a une rubrique Perfinmine.
Merci, merci beaucoup Thierry. Ça fait un petit moment qu'on discute. On a déjà dépassé notre temps. Effectivement, on pourrait discuter longtemps. C'est un peu ma faute. Je vous ai relancé ça trop de fois. Néanmoins, pour conclure sur la toujours notre question de fin pour les messages à la jeunesse, parce que sans eux, on s'en sortira pas. Sans également tous ces gens qui viendront se reconvertir dans les filières du bâtiment aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens qui rejoignent nos filières ?
Oui, absolument. Bah, deux choses peut-être. La première, c'est qu'il y a encore possible de gagner la bataille climatique. Passons pas trop vite du climato-scepticisme au climato-défaitisme. Chaque dixième de degré gagné sera une victoire en soi. Et tous les scénarios de transition énergétique qui sont aujourd'hui sur la table montrent bien qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'on peut s'en sortir avec des orientations différentes. On voit que rien n'est facile, mais beaucoup de choses sont encore possibles et il faut y aller. Et par rapport spécifiquement au métier du bâtiment, clairement, on a des métiers d'avenir. On voit qu'il y a beaucoup d'emplois à créer. On ne risque pas de délocaliser la rénovation énergétique au dernier dernières nouvelles en tout cas.
Non, c'est difficile.
Ça va être difficile. Voilà. Et avec les exigences de la rénovation performante, ces métiers vont exiger une véritable savoir-faire de terrain, notamment sur l'étanchéité à l'air ou des sujets comme ça. Donc c'est extrêmement valorisant. Donc on a à la fois des métiers qui sont valorisants, qui sont porteurs de sens. Donc que demander de plus, hein, allons-y.
C'est ça, absolument. Secteur du bâtiment, secteur angulaire de la transition environnementale.
Absolument.
Merci beaucoup et donc
merci
au plaisir
beaucoup.
D'échanger plus avant sur les prochaines étapes.
Avec plaisir.
Au revoir.
Un bâtiment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.